Cette transformation. Et là, nous sommes encore toujours dans une discussion qui pourrait être terriblement intéressante. Merci beaucoup, M. Leveux. J'appelle tout de suite M. Guy Bajoie, qui est également sociologue de l'Université catholique de Louvain et qui, me dit-on, a été l'un des maîtres les plus abondants de mémoire menée par des élèves, des étudiants chiliens, et qui donc, ne fût-ce qu'à travers ça, doit avoir une connaissance particulière du sujet. Il nous parlera de l'actualité du projet de Salvador Allende pour la gauche d'aujourd'hui. Ce n'est pas une redondance de l'intervention précédente, je suppose, mais ça la prolonge sûrement.
Oui, bonjour. Je dois d'abord commencer par dire que quand j'ai accepté de participer, j'ai d'abord dû donner un titre. Plus fort. Plus fort.
J'ai pas changé quelque chose au micro. Ah oui, oui, vous m'entendez. Ah, peut-être qu'il faut appuyer là-dessus, désolé. Appuyer oui, cette petite chose-là.
Appuyer là-dessus.
Ah, je crois.
Ah, c'est comme ça.
Oui, apparemment ça marche.
Ah bon, et je dois appuyer là-dessus, je ne pourrais pas m'endormir alors.
Au moyen. Je vous donnerai des coups de coude.
Hein?
Bon, allez-y.
Bien, j'ai donc d'abord dû donner un titre et puis après j'ai réfléchi à ce que j'allais raconter. Donc, il n'y a pas nécessairement une coïncidence entre les deux, mais j'ai quand même essayé de respecter mes engagements. Je vais essayer de présenter une analyse critique des difficultés qui ont été rencontrées par l'unité populaire dans la réalisation de son projet. Et cette analyse critique, c'est donc un thème extrêmement dangereux. Je m'en rends bien compte, mais enfin, on verra bien ce que ça va donner. C'est donc cette analyse critique, je vais essayer de la faire en m'inspirant d'une théorie que j'appelle la théorie du développement éthique et durable. Je vous en reparlerai après, bien entendu, parce que c'est très important, précisément pour définir le projet de la gauche d'aujourd'hui. Alors, selon la théorie en question du développement éthique et durable, les gouvernants qui prétendent mener à bien une tentative de développement quelque part, dans un pays, quel qu'il soit, doivent résoudre, me semble-t-il, six contradictions fondamentales. Six contradictions fondamentales que je vais reprendre une à une bientôt. Et il me semble que c'est ce que Allende et l'Unité populaire ont essayé de faire au Chili déjà en 1973. Et que, étant donné, à mon avis, la pleine actualité de cette tentative de socialisme démocratique, eh bien, je crois qu'il est extrêmement important de se retourner sur l'histoire du Chili, de voir pourquoi ça a été difficile, pourquoi peut-être même ça n'a pas marché parfois, pourquoi ça a été très difficile en tout cas, pour essayer d'en tirer quelques leçons pour le futur. Donc, entendons-nous bien, hein. J'essaie juste de comprendre ce qu'il faut retenir de l'unité populaire, ce qui peut nous servir encore dans le futur. En fait, je vais essayer de répondre à deux questions. Quelles sont les contradictions fondamentales que les gouvernants doivent résoudre quand ils prétendent mener à bien un projet de développement éthique et durable, d'une part, et deuxièmement, pour chacune de ces six contradictions, quelles sont les difficultés particulières qui ont été rencontrées par l'unité populaire quand elle a voulu essayer de résoudre ces problèmes-là. Bon, alors je commence par là. C'est fatigant, hein, toujours le même pouce sur le même bouton. Non, mais ça va, je change de main. Alors, première contradiction. Il faut réussir, me semble-t-il, à concilier la croissance économique d'un côté et la redistribution de la richesse de l'autre. Autrement dit, il faut faire, pour le dire avec une métaphore, il faut faire grandir la tarte, il faut faire grandir le gâteau, et il faut en même temps pouvoir le partager. Alors, en énonçant cela, si je reprends maintenant, je reviens à l'unité populaire, et que je vois quelles ont été les difficultés, eh bien, vous vous rappelez sans doute, ou peut-être pas, je n'en sais rien, mais que la première année fut très, non pas facile, mais prospère. Le PIB avait augmenté de 8,6%, L'inflation avait baissé de 30 à 22, le chômage était descendu à 3,8, la production industrielle avait augmenté de 12%, donc les choses semblaient bien aller. Et puis, il semble bien qu'à un moment donné, le train ait commencé à dérailler et les choses ont commencé à se compliquer. Et le problème a été, me semble-t-il, de concilier les exigences financières d'une politique sociale et publique très généreuse et très rapide, les fameuses 40 premières mesures promises par Salvador Allende dans le domaine des salaires, de l'éducation, de l'alimentation, de la santé, du logement, et que ces mesures-là et cette politique-là, sociale et publique, est contraint à un moment donné. Le gouvernement, qui était le ministre de l'économie à l'époque, Pedro Bouskovic, a fait tourner la planche à billets. Alors, il y a eu une chaîne de conséquences. Augmentation de la masse monétaire, inflation, hausse des prix, donc intervention du gouvernement pour fixer les prix, donc marché noir, rareté intentionnellement organisée des biens de première nécessité, que devant les magasins, mécontentement des secteurs, enfin bref, un cercle vicieux qui a constitué évidemment l'occasion pour la bourgeoisie, pour les grands commerçants, pour les propriétaires fonciers, d'organiser un sabotage économique qui a été très efficace. Donc la première difficulté a été, me semble-t-il, de concilier, si vous voulez, une politique sociale et une politique publique avec les exigences d'une classe gestionnaire, d'une classe dirigeante, d'une bourgeoisie, mais aussi des commerçants et des propriétaires fonciers qui n'acceptaient pas cette politique. Sans compter, je rajoute à cela, que dans un tel contexte, c'est dans un tel contexte que Allende prononce les fameuses nationalisations. Le textile en 70, les banques, le cuivre en 71, les 91 grandes entreprises nationales, le commerce extérieur, etc. Tout ça très rapidement. Et il le fait, il est obligé de le faire, étant donné sa position dans le Parlement, en utilisant des... ce que j'ai appelé, je ne sais pas comment on traduit ça, « rescissus legalis », c'est-à-dire des brèches juridiques. Je ne sais pas très bien comment traduire « rescissus legalis ». Un rescissus, c'est une fente, c'est une ouverture, c'est une faille, mais en tout cas, c'est une ouverture qui permet, de, non pas de contourner une loi, parce que c'est légal, c'est légal, mais de la faire passer dans des conditions qui ne sont pas tout à fait plaisantes. C'est quoi ? Oui, mais contourner, il y a un procès d'intention derrière le mot contourner que je n'aime pas beaucoup, donc je ne sais pas comment dire ça, mais enfin, peu importe, vous avez compris. Donc, la première contradiction, si vous voulez, concilier la croissance économique d'un côté avec la distribution de la richesse de l'autre, s'est heurtée à cette difficulté-là. Première contradiction. La deuxième, c'est de concilier la participation au marché international avec le contrôle des ressources nationales d'un pays. Comment faire quand on n'a que du cuivre à vendre, enfin qu'on a principalement du cuivre à vendre, et qu'on doit, pour obtenir des devises, le vendre sur le marché international, comment faire ? Donc, quand on est obligé de participer au marché international, on ne peut pas se refermer sur soi-même, comment faire pour, cependant, conserver le contrôle de ce cuivre, conserver le contrôle de ces richesses nationales ? Alors, vous savez aussi bien que moi que les entreprises étrangères s'efforcent de payer les salaires les moins élevés possibles, le moins d'impôts possible, de tout rapatrier les bénéfices et de les investir ailleurs, de comploter avec l'aide des États impérialistes. Et je ne vais pas vous re-raconter ici ce que tout le monde, je suppose, sait, c'est-à-dire les difficultés que l'unité populaire a rencontrées avec l'administration Nixon-Kissinger aux États-Unis, d'une part, avec ensuite les grandes entreprises étrangères qui avaient des intérêts aux États-Unis, au Chili, et en particulier les mines, donc l'histoire de l'Anaconda Mining Company, de la Braden Copper, etc. Et le boycott systématique et le blocus systématique organisé par les Nord-Américains, non seulement pour le commerce avec les États-Unis, mais aussi les tentatives qu'ils ont faites pour empêcher le commerce avec la France, avec l'Allemagne, etc., avec d'autres pays qui étaient des pays alliés. Tout cela n'a pu faire, évidemment, qu'accentuer la volonté des États-Unis d'intervenir et de mettre fin à cette expérience le plus rapidement possible. Donc, deuxième contradiction, il a été très difficile à Salvador Allende de concilier la participation obligatoire au commerce extérieur et, de l'autre côté, la reprise en main du contrôle des ressources nationales. Il y a d'autres pays où cela s'est fait après. Je pense, par exemple, au pétrole et au gaz bolivien et aux mesures que Evo Morales a prises. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'était difficile, que c'était extrêmement compliqué de le faire à ce moment-là. En particulier, à ce moment-là, on est en 1973. Bon. Troisième élément, contradiction fondamentale, concilier un gouvernement fort avec le respect de la démocratie politique. Là, on est dans un thème que tout le monde ici, enfin pas tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais que beaucoup de ceux qui sont ici connaissent bien. Freddy vient d'ailleurs de le rappeler, Allende n'avait obtenu que 36% des voix, il avait donc besoin de la démocratie chrétienne, elle a voulu un statut de garantie démocratique qui a été approuvé par le Parlement. C'est à cette condition qu'Allende est devenu président de la République, et donc la via chilena al socialismo devait être démocratique. Non seulement parce qu'Allende le voulait, mais aussi parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement dans le contexte dans lequel il était. Parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement dans le contexte dans lequel il était, j'insiste, ça n'était guère possible, avec 36% des voix. Vous me direz qu'après, il a obtenu davantage. En effet, si on reprend les élections successives qui ont eu lieu par la suite, l'appui du peuple, de la population chilienne à l'unité populaire, n'arrêtait pas d'augmenter, malgré les difficultés économiques que j'ai décrites, rappelées tout à l'heure. Il a eu 51% aux élections municipales de 1971, 43,4% aux élections législatives de mars 73, on est presque à l'autre bout. Mais enfin, malgré tout cela, il y avait là une difficulté. Il fallait un gouvernement fort. Il fallait un gouvernement fort avec un projet clair, capable de prendre des décisions et d'avancer sur le chemin de son projet politique qui était, et social, qui était le socialisme démocratique. Et en même temps, il fallait respecter la démocratie politique. Et ça a été particulièrement difficile parce que, déjà, au départ, il y avait tous les obstacles que l'opposition dressait sur le chemin de Salvador Allende et de son équipe gouvernementale, puisqu'il n'avait pas la majorité au Parlement. Il y avait alors le fait qu'à un moment donné, la démocratie chrétienne a changé de tactique et de camp. Alors qu'elle avait au départ appuyé l'expérience, elle a finalement constitué le fameux CODE. L'alliance entre la démocratie chrétienne et le Parti national pour essayer d'organiser les accusations constitutionnelles contre le gouvernement de l'UP et donc le mettre en difficulté au Parlement. Allende a été obligé à ce moment-là d'inviter les militaires pour essayer de donner une caution, une garantie à la droite. Tout ça a été extrêmement compliqué, d'autant plus que tout cela a... et ça, je ne dois pas le rappeler non plus, diviser considérablement l'unité populaire. C'est bien connu, n'est-ce pas? Les fronts de gauche se constituent pour prendre le pouvoir, et une fois qu'ils doivent l'exercer, ils se divisent. Ils se divisent entre modérés et radicaux. C'est toujours la même chose, c'est vieux comme le monde, c'est vieux depuis la révolution soviétique entre les mencheviks et les bolcheviks. C'est le même scénario qui se reproduit pratiquement tout le temps. Et donc ici, vous avez eu cette division entre ceux qui... voulait consolider pour avancer, consolidar para avanzar, et ceux qui voulaient avanzar sin transar, c'est-à-dire ceux qui voulaient y aller tout doucement, consolider dans la démocratie les conquêtes successives, négocier, et ceux qui disaient au contraire, mais puisque nous sommes forts, faisons un coup d'État, un autogolpe, prenons le pouvoir véritablement. Donc il y avait cette division, la vieille division entre réformistes et révolutionnaires qui n'arrête pas de nous emmerder depuis des siècles, mais depuis très longtemps, et qui est toujours là aujourd'hui, qui fait que on peut encore ne pas être aujourd'hui dans le même camp si l'on devait se diviser ici entre savoir s'il faut avançar, s'il transar, ou bien s'il faut consolidar par avançar. Bon, donc respecter la démocratie politique tout en ayant un gouvernement fort, ça a été particulièrement difficile dans le cas de l'UMP. J'en viens à ma quatrième contradiction. Je me dépêche un peu, mais il fallait. Vous allez voir à quel point elle est pertinente elle aussi pour comprendre ce qui s'est passé. Il fallait concilier l'institutionnalisation des conflits. Quand je dis institutionnalisation des conflits, je veux dire mettre les gens autour de la table, négocier et ne pas sortir les revolvers. Hein? C'est ça que c'est, l'institutionnalisation des conflits, avec le respect de la démocratie sociale. C'est une contradiction parce que les groupes sociaux dont les intérêts ne sont pas institués ont tendance à utiliser la violence pour se défendre ou pour les imposer. C'est ce qu'ils ont tendance à faire. Alors, tout ce que je viens de raconter a créé un climat de polarisation gauche-droite à l'intérieur du Chili, qui n'arrêtait pas de grandir pendant les 3 années de l'unité populaire, avec des débordements de violence plus ou moins graves. Alors, il y en avait des deux côtés, mais il y en avait surtout à droite. Les classes dominantes se sentaient menacées dans leurs privilèges et avaient tendance à utiliser la force pour se défendre. Rappelez-vous, le lockout patronal, les groupes armés, Patria Libertad, El Tanquetazo de juin 1973, il y a eu beaucoup de violence de la part de la droite. Et il y a eu aussi une violence qui est tout de même un peu plus facile à comprendre. Les classes populaires étaient impatientes de mettre fin aux multiples formes de domination qu'elles subissaient. Les paysans voulaient des terres, les Mapuches voulaient la redistribution des terres, les pobladores voulaient des terrains et des maisons, les ouvriers voulaient des salaires et des conditions de vie favorables. Et donc, ils ont un peu, dans leur empressement, forcé la main, pris ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils croyaient que c'était le moment, et que c'était le moment ou jamais, parce que ça ne s'était guère présenté avant et ça n'allait probablement plus se représenter après. Donc, si vous voulez, la difficulté a été ici qu'Allende voulait respecter absolument la démocratie politique et la démocratie sociale, et que pour pouvoir respecter les deux, eh bien, il a eu beaucoup de mal à institutionnaliser les conflits et à faire coexister pacifiquement tous les groupes sociaux qui composent le Chili. Ça me paraissait une quatrième difficulté particulièrement grave liée à cette quatrième contradiction du développement éthique et durable. J'en viens à la cinquième, concilier la modernisation avec le respect des cultures traditionnelles. Et c'est fondamental. Vous ne pouvez pas développer sans moderniser, mais vous ne pouvez pas non plus moderniser en niant l'identité de tous ceux qui sont autour de vous. Par conséquent, cette contradiction-là, eh bien, elle était grave également, en particulier en ce qui concernait la question des Mapuches. Mais il se trouve que, d'après les informations que j'ai retrouvées, eh bien, le gouvernement d'Allende a été particulièrement favorable aux Mapuches. Il a créé l'Institut de capacitation Mapuche à Temuco, la commission de redistribution des terres, et on estime, je n'étais pas là moi, mais on estime qu'il y a eu 220 000 hectares de redistribution de terres qui ont été faites par la commission en question. Bon, il faut dire aussi que les Mapuches n'étaient pas aussi présents et aussi virulents et aussi exigeants à cette époque qu'ils le sont aujourd'hui. Et puis, j'ai la sixième contradiction qui, elle, ne me paraît guère pertinente dans le cas d'Allende, mais qui, dans le cas de l'unité populaire, mais que je signale quand même. Il faut pouvoir concilier le progrès technologique et le respect de l'environnement naturel. Le problème, me semble-t-il, ne s'est pas posé dans le cas d'Allende. Mais par exemple, il se pose dans le cas de Lula ou dans le cas de Dilma Rousseff. Est-ce qu'il faut continuer à, au nom de l'innovation technologique dans le domaine des carburants et des agrocarburants, est-ce qu'il faut continuer à exploiter et à laisser tomber la forêt amazonienne, ou bien, il y a là une tension qui est particulièrement difficile à gérer, mais je crois que dans le cadre de l'unité populaire, ce problème ne s'est pas posé. Alors donc, je vais conclure, parce qu'il me reste peu de temps, et je tiens beaucoup à vous dire ma conclusion. Même si Salvador Allende et l'unité populaire n'ont pas vraiment réussi à concilier les contradictions du développement éthique et durable, en tout cas, les quatre premières, la cinquième, oui, mais la sixième, le problème ne se posait pas, mais même s'ils n'ont pas vraiment réussi à les concilier, leur tentative ne fut pas, comme l'a bien rappelé ce matin Joan Garcés, ne fut pas un échec, bien au contraire. Ils ont été, me semble-t-il, Et c'est là que je rejoins le sujet que j'avais annoncé à Jorge au moment où il m'a posé la question. Ils ont été des précurseurs qui ont posé au monde entier un problème d'une actualité brûlante. Comment concilier la justice sociale et la liberté politique ? Comment concilier la justice sociale et la liberté politique ? Pour moi, j'estime qu'il s'agit d'un problème vieux comme le monde, mais qu'aucune société n'a jamais réussi à résoudre durablement. En effet, méditez bien cela, parce que cette phrase-là, je l'ai écrite 10 fois pour essayer de la dire correctement. Alors je vais la lire. « Avec les humains tels qu'ils sont, quand une société a voulu être juste, elle n'a pas pu être libre. Et quand elle a voulu être libre, elle n'a pas pu être juste. » Alors, le socialisme démocratique d'Allende a donc été, me semble-t-il, une formidable utopie avant-gardiste. Une formidable utopie avant-gardiste. Il a essayé, il n'est pas le seul à l'avoir fait, mais il a essayé de résoudre ce problème énorme, de faire donc un pas décisif à l'humanité vers une société où, comme j'ai trouvé un jour une belle phrase d'Eduardo Galeano qui dit « La justice et la liberté doivent être comme deux sœurs siamoises, soudées l'une à l'autre, épaule contre épaule. » Alors si la gauche d'aujourd'hui et de demain a encore un sens, ce serait, me semble-t-il, de reprendre à son compte le projet de Salvador Allende et de ceux qui ont cru en lui. Le projet de la gauche d'aujourd'hui ne peut être, pour moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais pour moi, il ne peut être que de promouvoir un développement éthique et durable, c'est-à-dire d'essayer de résoudre, essayer et essayer encore, d'inventer des solutions aux 6 contradictions que l'unité populaire a essayé de résoudre, qu'elle a eu du mal à résoudre, et qui doivent cependant être résolues pour arriver à faire un développement éthique et durable. Il faut à la fois faire grandir le gâteau et le partager. Il faut contrôler les ressources nationales et participer aux échanges économiques internationaux. Il faut un gouvernement fort et le respect de la démocratie sociale. Il faut instituer les conflits pour avoir un pacte social pacifique et respecter la démocratie sociale, cette fois-ci, politique, c'était l'autre. Il faut aussi participer aux innovations technologiques et aux grands courants d'innovation technologique, mais il faut respecter l'environnement naturel. Ça, c'est un problème qui est vraiment très actuel. Et il faut, enfin, aussi savoir comment moderniser et respecter la loi de la majorité, tout en respectant cependant les minorités et les cultures des personnes ou des groupes sociaux qui ont occupé le territoire sur lequel vous habitez avant que vous n'y arriviez vous-même. Voilà. Ces 6 questions-là me paraissent être à la fois un guide qui permet d'analyser l'expérience d'Allende et en même temps, je crois, un projet pour la gauche d'aujourd'hui ou de demain. Voilà.
Bien. Je crois que vous avez là donné une leçon remarquable en 6 points. Vous avez résumé toute l'unité populaire. C'est une leçon merveilleuse. Je propose que les professeurs la reprennent parce que pour une classe d'histoire, c'est splendide. Vous avez dressé toutes les problématiques. Hein, et je crois que c'est effectivement ça le cas. Mais qui va le faire? Parce qu'en fait, la justice sociale sans liberté politique a aussi montré que ça ne réussissait pas. Hein, donc il faut pouvoir concilier les deux. Hein. Aucun modèle n'a finalement réussi de ce socialisme que beaucoup parmi nous ici, je crois, aspirent à avoir réalisé un jour. Je donne la parole immédiatement à M. David Mendez-Yepes,